Bonjour à toutes et tous, c'est Rencontre avec les avocats du barreau de Bourges et nous accueillons aujourd'hui maître Béatrice Bouillaguet. Voilà, on n'est pas de la même famille mais on porte le même nom.
Voilà, bonjour.
Alors, ce qu'il y a de bien avec la justice, c'est qu'on peut faire une émission tous les jours, il y a toujours quelque chose de nouveau. Là, j'ai vu passer dans la presse le recrutement de... Je ne sais pas comment on les appelle, des adjoints au procureur. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, ce sont les délégués du procureur. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau, ça existe déjà, mais c'est vrai qu'on en recrute de plus en plus actuellement. Ce sont des personnes qui ne sont pas des magistrats et qui sont recrutées pour aider le procureur, notamment dans ce qu'on appelle les mesures alternatives aux poursuites.
Eh bien oui, parce que, alors, ça avait l'air d'être une nouveauté pour Bourges. Est-ce qu'il n'y en avait pas avant ou est-ce que...
Aussi, parce qu'à Bourges, il y en a déjà 4-5. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un article dans le journal parce qu'il y en a des nouveaux.
Oui, il y a eu un arrivage.
Voilà, il y a eu un arrivage.
Un lâcher.
Y compris avec des personnes qu'on connaissait, parce qu'il y a un ancien policier d'audience qui a été policier d'audience pendant des années au tribunal et qui est désormais du coup délégué du procureur. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu un article dans les journaux. Mais non, c'est quelque chose qui existe déjà, qui fonctionne, dans la mesure où ce sont ces personnes qui vont être chargées, par exemple, de faire les rappels à la loi et également les mesures de composition pénale, par exemple.
Ah, alors là, il y a plein de mots à exploiter. Le policier d'audience.
Le policier d'audience, il faut savoir que pour les audiences pénales, en plus des magistrats, en plus du greffier, il y a ce qu'on appelle un huissier audiencier, c'est-à-dire un huissier, c'est souvent un clerc d'huissier, donc un employé d'une étude d'huissier, qui est là, c'est lui qui va pointer si les gens sont arrivés, qui va passer les dossiers aux magistrats, qui va s'occuper de ces formalités-là. Il est en robe. Il a la même chose qu'une robe de greffier. Et il y a aussi un policier d'audience qui est là pour assurer la police de l'audience sous la direction, bien évidemment, du président du tribunal, que ce soit le tribunal de police, que ce soit le président du tribunal correctionnel, que ce soit par exemple également le juge des enfants quand il est en matière pénale. Il y a toujours un policier d'audience.
Voilà. Alors quand le président dit « silence » ou « je fais évacuer la salle », c'est lui qui...
C'est le policier d'audience, voilà.
Voilà.
Et ce qui arrive beaucoup plus fréquemment, c'est souvent quand il y a un huis clos qui est ordonné, c'est le policier d'audience qui va se charger de fermer la porte, de filtrer les entrées et de rappeler qu'il y a un huis clos.
Oui, d'accord. En fait, on dit toujours « Oh, la justice manque de personnel, manque de moyens », mais elle ne manque pas de noms, hein.
Non, ça, le vocabulaire, on l'a. Les moyens, on les a pas, mais c'est vrai qu'on peut appeler, vous voyez, quand on dit le procureur, on peut le parquet, enfin, on peut avoir des synonymes jusqu'à 3-4 mots pour la même chose, mais les moyens derrière, ça, on en manque gravement.
Et alors, ces adjoints un peu du procureur, alors, moi, j'avais eu l'impression que, du coup, il rendait la justice d'une certaine façon, mais non. Alors, ce sont des alternatives aux poursuites, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Eux, ils n'ont pas de marge de manœuvre. C'est toujours le procureur qui garde ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, hein, parce que c'est le procureur en France qui décide de savoir s'il va faire juger quelqu'un, par exemple, par le tribunal correctionnel, ou s'il va, du coup, l'envoyer devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi, sachant que un rappel à la loi, du coup, c'est convoquer la personne officiellement, lui indiquer que ce qu'elle a commis est une infraction. En général, on lui rappelle ce qu'elle encourt, c'est-à-dire ce que prévoit le code pénal qui, je le rappelle, ne prévoit que des maximums, donc quelle est la peine pour l'infraction qu'a priori il a commise, et donc du coup de lui dire, bah, voyez, cette fois-ci vous vous en tirez bien parce qu'on vous fait un rappel à la loi et il n'y a rien d'autre, mais si jamais vous y avez autre chose, d'abord la justice saurait que vous aviez eu un rappel à la loi et ça serait une autre musique la prochaine fois.
Un rappel à la loi, c'est enregistré dans le... comment ça s'appelle ?
Non, c'est pas sur le casier judiciaire.
Ah, d'accord.
Alors, c'est pas sur le casier judiciaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, pour autant, on peut quand même le retrouver dans le traitement des antécédents judiciaires, et le tribunal le saura qu'il y a eu un rappel à la loi. C'est enregistré dans le logiciel, dans Cassiopée. Et ce rappel à la loi, il peut également être fait par un officier de police judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, il peut être fait au stade du commissariat ou au stade de la gendarmerie.
D'accord. Cassiopée. C'est merveilleux, ces noms.
Cassiopée. Oui, c'est merveilleux. Ça n'a de merveilleux que le nom. Le logiciel Cassiopée, c'est en général celui qui fait s'arracher les cheveux à tous les greffiers de France et de Navarre. Parce qu'il plante systématiquement au moment d'enregistrer le document et qu'il faut tout refaire.
Et oui. L'informatique, c'est bien, mais il ne faut pas croire que ça fait tout seul.
Oui, et puis là, on en revient sur nos problèmes de moyens, sur le fait que c'est le problème aussi d'avoir des choses qui ne sont plus nécessairement tellement à jour. Donc, on a des vieux logiciels pour les tribunaux.
Un autre mot que j'ai vu passer, il n'y a pas très longtemps, là, dans la conversation, c'est composition pénale. Ah ! Quel rapport entre la composition pénale et le jugement ?
Alors, il n'y a pas véritablement de rapport. Ça va être surtout le procureur qui va estimer que, enfin, qui va proposer à la personne à qui on reproche une infraction, ça va en général être une amende de composition pénale, c'est-à-dire qui dit au niveau de la peine, vous allez payer une amende et donc du coup, il n'y aura pas de poursuite ultérieure, par exemple, devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel. Et donc, il y a cette amende de composition pénale qui est versée au trésor public, hein, puisque du coup, comme toutes les amendes en France sont versées au trésor public, et dans le cadre de la composition pénale, donc c'est aussi une des missions du délégué du procureur, il peut y avoir également l'indemnisation de la partie civile. Alors partie civile, c'est le mot officiel de procédure pour désigner la victime de l'infraction, celle qui a subi un préjudice suite à l'infraction.
Donc, en fait, le procureur compose véritablement. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. C'est soit poser les uns à côté des autres, comme on disait autrefois, soit négocier. Est-ce qu'il y a une négociation, par exemple, est-ce qu'il y a la présence de l'avocat, au moins ?
Il peut y avoir la présence de l'avocat, c'est pas obligatoire à ce stade devant le délégué du procureur, mais c'est une possibilité. En tant qu'avocat, c'est souvent qu'on peut assister quelqu'un, d'ailleurs y compris dans le cadre d'un simple rappel à la loi, hein. Il y a la possibilité qu'on puisse assister quelqu'un. Et dans le cadre de la composition pénale, alors souvent la négociation est assez limitée, mais au moins la personne a le choix d'accepter ou de refuser l'amende de composition pénale, notamment s'il estime qu'il n'a pas commis les faits qu'on lui reproche. Et à ce moment-là, en général, le procureur, du coup, le fera citer devant la juridiction, tribunal de police ou tribunal correctionnel, où il pourra s'expliquer.
D'accord. Et là, il sera éventuellement condamné.
Il sera condamné pour le coup, son dossier sera jugé par un juge, c'est-à-dire un magistrat du siège, qui du coup verra si oui ou non il est coupable, et s'il est coupable, quelle est la sanction la plus adaptée.
Ah, d'accord. Donc, c'est un petit peu la logique d'alléger le travail du juge, quand même.
C'est de déléguer effectivement le travail du procureur, c'est aussi d'éviter l'audience, parce que l'audience, on passe moins de dossiers en une demi-journée d'audience que devant le délégué du procureur, où ça peut aller beaucoup plus vite, où on passe pour des faits en général un petit peu plus simples. Et donc du coup, c'est aussi parce qu'on n'a pas nécessairement toujours les moyens financiers de multiplier les audiences. À une audience, il faut au moins un magistrat du siège, il y a un greffier, il y a un représentant du parquet, il y a du coup notre huissier huissier audiencier, il y a notre policier d'audience. Donc tout ça en matière pénale est assez, assez lourd. Et donc du coup, il y a cette, par le biais des délégués du procureur, le moyen de traiter du contentieux de masse.
Oui, c'est une sorte d'évitement, de rocade pour contourner la justice.
Ah, on ne contourne pas la justice, mais c'est vrai que c'est un moyen de traiter un petit peu plus rapidement des dossiers dont on estime qu'ils ont pas lieu d'aller jusqu'à une audience.
D'accord. Dans le domaine de ces... Alors, les délégués du procureur, c'est en quelque sorte de l'importation de la main-d'œuvre étrangère au monde judiciaire, d'une certaine façon, même si souvent c'est des gens qui étaient déjà proches de ce milieu-là. Il y avait aussi les juges de proximité.
Tout à fait. Les juges de proximité qui ont changé beaucoup d'appellations ces dernières années et qui désormais sont des magistrats à titre temporaire, donc avec l'acronyme MTT, et qui peuvent intervenir, alors eux, en matière pénale ou en matière civile, puisqu'ils peuvent, par exemple, en matière pénale, ils peuvent signer des ordonnances pénales. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'ordonnance pénale, ça va être une sanction non contradictoire, puisque le principe du procès, c'est qu'il doit être contradictoire. On se présente devant son juge, on explique sa situation. Quand on est devant le délégué du procureur, on se présente devant le délégué du procureur. On va pouvoir, oui ou non, accepter ce qui est proposé. L'ordonnance pénale, c'est en fait, vous avez commis une infraction, notamment, je pense, aux infractions en matière routière.
Oui.
Et vous allez pouvoir, du coup, recevoir une ordonnance pénale, c'est que vous recevez en fait directement la sanction par ordonnance d'un magistrat, et donc vous avez une amende par exemple, vous avez une suspension de permis de conduire. Tout ça a été fait sur dossier.
D'accord. Et une ordonnance exécutoire.
Une ordonnance exécutoire à laquelle on peut faire opposition. Pour demander, du
c'est
coup...
C'est pas appel, là, c'est
opposition. Non, c'est pas, justement, c'est pas appel, c'est opposition, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très différent, puisqu'appel, on passe devant la cour d'appel, et opposition, en fait, on reste au même niveau. C'est justement de dire, comme ça a été rendu de manière non contradictoire, on a la possibilité de demander à ce que ce soit contradictoire, et à ce qu'on soit présenté à un juge pour pouvoir s'expliquer et donner des documents, des justificatifs de sa situation. C'est la raison pour laquelle on peut toujours faire opposition sur une ordonnance qui a été rendue, là c'est en matière pénale et ça sera la même chose en matière civile. Et donc les magistrats à titre temporaire peuvent rédiger les ordonnances pénales, de la même façon qu'ils peuvent participer aux tribunaux, par exemple, correctionnels. Ils peuvent être assesseurs du tribunal correctionnel, ils peuvent être également assesseurs de la cour criminelle, puisqu'il y a l'expérimentation dans le Cher. Donc ça, c'est en matière pénale. En matière civile, ils peuvent être également assesseurs du tribunal judiciaire quand il y a trois magistrats, et donc rédiger des jugements en matière civile et en matière de justement les tribunaux de proximité qui existent encore. Donc là aussi, ils peuvent prendre l'audience en tant que magistrat.
Alors, les mots ont leur importance, même s'il y en a beaucoup. Délégué du procureur, ça veut dire qu'on a hérité, légué, c'est ça, on a hérité de la tâche du procureur.
Oui, on a... Le procureur délègue ses pouvoirs voilà, au délégué, oui.
Littéralement. Et là, quand même, on est magistrat à titre temporaire. On a le titre de magistrat.
On a le titre, on a la robe du magistrat. Ce sont ça ne se voit pas, la distinction ne se voit pas à l'œil nu. Avant, les juges de proximité, on les reconnaissait parce qu'ils étaient en civil. Hein. Ils avaient une médaille, comme l'ont par exemple les juges consulaires. Mais on pouvait les distinguer. C'est-à-dire qu'à l'audience, quand ils arrivaient, le tribunal avec trois personnes, il y en avait un qui n'était pas en robe, ça faisait la distinction. Là, actuellement, ce sont des magistrats à titre temporaire. Ils siègent en robe et donc il n'y a aucune différence avec un magistrat à titre permanent, je vais dire ça.
Ils ont repris la soutane. Et quand même, pour être magistrat, il faut passer par une sainte école de la magistrature. Et eux, alors, d'où est-ce qu'ils viennent?
Alors, c'est sur dossier. Donc, les magistrats à titre temporaire, ça peut être, par exemple, d'anciens avocats qui peuvent demander à être magistrats à titre temporaire. Ça peut être aussi des magistrats qui sont touchés par la limite d'âge pour être magistrats à titre permanent et qui peuvent demander à être magistrats à titre temporaire. Ce sont, par exemple, des professeurs d'université, des anciens policiers. Voilà, pour tout ça, c'est sur dossier. Et en fonction du coup des qualifications de la personne et donc de ses études, il y a une formation qui est faite par l'École nationale de la magistrature, d'ailleurs.
Oui, quand même, oui. Ah, parce qu'on en parle beaucoup de cette école. Certains voudraient, là, un petit peu comme l'ENA, lui faire subir un petit lifting. Et l'idée, c'était d'amener dans le monde de la justice des gens qui viennent d'horizons différents, qui ont fait des études différentes. C'est pas la même chose d'être magistrat et professeur de droit à l'université, par exemple.
Oui, mais alors très concrètement, actuellement, la composition de... Ce qu'il faut savoir, c'est que l'École nationale de la magistrature, il y a plusieurs concours pour y rentrer, pour être magistrat. Il y a le premier concours qui est ouvert, bah, par exemple, aux étudiants en droit. Il faut justifier d'avoir un master, et donc on peut être magistrat en France, il est vrai, dès 23 ou 24 ans. C'est-à-dire qu'on peut rentrer à l'École nationale de la magistrature en ayant, du coup, passé le concours, hein, qui est un concours relativement difficile, et devenir magistrat. Il y a aussi du coup plusieurs voies, et autres voies avec plusieurs autres concours, des concours du coup de la fonction publique, donc quelqu'un qui a fait 15 années dans la fonction publique peut demander à passer le concours de l'École nationale de la magistrature. Les avocats peuvent demander aussi, alors soit en fonction de leur année d'ancienneté, soit à passer le concours et donc à faire toute la scolarité, sachant que la scolarité à l'École nationale de la magistrature, c'est 30 mois, avec un certain nombre de stages, des stages dans des cabinets d'avocats, des stages en commissariat, des stages en prison, des stages en administration, pour essayer de voir tout le panel possible donc du métier. Et donc, du coup, il y a aussi ce qu'on appelle les gens qui sont intégrés, c'est-à-dire qu'il y a des avocats qui, sur dossier, demandent à intégrer la magistrature. Et il y a beaucoup de magistrats qui sont des magistrats intégrés, c'est-à-dire que je dirais le panel assez représentatif de la société, honnêtement, il existe déjà par rapport à ces multiples voies de recrutement des magistrats en France.
D'accord. Eh bien oui, moi j'avais vu un expert comptable qui était devenu avocat.
C'est possible aussi, oui. C'est possible, on a des passerelles, on a des, par exemple, quelqu'un qui est inspecteur des impôts, qui peut demander à devenir avocat.
C'était un petit peu son cas, oui.
Voilà,
un secrétaire de préfecture qui est devenu procureur aussi, on a connu ça dans le Cher.
On a connu ça dans le Cher, tout à fait, vous voyez, il y a des passerelles, tout à fait.
Voilà, donc ça... C'est bien, ça fait une justice un petit peu moins prévisible, peut-être.
On essaye, non, la justice, elle doit être humaine. Donc, elle doit être rendue par, effectivement, des humains qui ont connaissance.
C'est pareil, humain et imprévisible, ça,
oui,
c'est la même chose.
Mais oui, parce que sinon, après, on va tomber dans le prévisible et voire même dans le prédictif. Mais à ce moment-là, on sera tous remplacés par des logiciels et on n'aura plus de soucis, ni de plaidoiries, ni d'autres choses.
Ah ben... Prédictif, c'est encore mieux que présumé, dont on va parler dans quelques instants. Mais revenons à notre cours criminel. Alors, cours criminel, eh ben, c'était une expérience. Ça fait combien, 2 ans hein, dans le Cher?
Oui, ça a commencé en mars 2019. Oui.
On était en bonne santé à cette époque et on était des pionniers parce qu'il n'y avait que très peu de... C'était dans des domaines de cours... d'appel ou
il y avait,
c'était
non, c'était par département.
D'accord.
Parce que du coup c'était les cours d'assises qui devaient être volontaires et donc le Cher, on faisait partie des 7-8 pionniers, hein, ceux qui étaient dès le départ en expérimentation pour les cours criminels. Qui ont cette particularité, donc comme leur nom l'indique, elles jugent les crimes, sachant que normalement c'est la cour d'assises qui juge les crimes et que la cour d'assises a la particularité d'être composée de 3 magistrats professionnels et de 6 jurés tirés au sort. en première instance, sachant qu'il y en a plus en appel.
En appel, oui.
Et donc, du coup, la cour criminelle, là, cette fois-ci, c'est 5 magistrats professionnels. Et donc, on n'a plus de jurés du tout sur la cour criminelle.
Donc, 2 magistrats professionnels, éventuellement, d'ailleurs, à titre temporaire, remplacent 6 jurés citoyens.
Oh bah c'est difficile de le voir de manière mathématique, mais du coup, voilà, on a en tout cas 5 magistrats en tout, et il peut y avoir 2 magistrats à titre temporaire, oui, dans cette composition de magistrats professionnels.
Alors, ça fait maintenant, on a du recul. D'abord, on n'est plus des pionniers, on a été rattrapés par pas mal d'autres départements. Et l'expérience semble plutôt appréciée.
L'expérimentation a été étendue très très vite, puisqu'on est passé de 7-8 départements concernés à une 15aine désormais. Et oui, a priori, tout cela va être pérennisé. Dans le département du Cher, ça se passe globalement bien, parce que, je dirais, le temps d'audience n'a été que très légèrement réduit, et que surtout chacun peut s'exprimer. On n'est pas sur du jugement à la va-vite,
sur dossier.
Voilà, en quelques heures sur dossier, de manière prévisible. On a quand même le temps. Dans le Cher, on entend les experts, on a des vraies plaidoiries, on entend les témoins également, de manière à ce que, certes, ça soit que devant des magistrats professionnels, mais que chacun prenne le temps d'une justice.
Le temps, voilà, c'est toujours la même chose. La justice prend du temps.
Il faut que la justice prenne du temps. Je veux dire, quand on y est confronté, je crois qu'on préfère que son dossier, le magistrat prenne le temps de le regarder, d'écouter ce qu'on a à dire, de lire les conclusions, plutôt que d'avoir l'impression d'avoir été traité de manière rapide et peut-être pas adaptée et survolée. Mais c'est vrai que le temps, ça coûte. Tout
oui.
Le sait.
Et souvent, les gens pensent qu'il suffit d'augmenter les effectifs. Alors, il y a fort à faire dans ce domaine, hein. Mais il suffirait d'augmenter les effectifs pour que la justice aille plus vite. Et en fait, non, il y a... Alors maintenant, le mot à la mode, c'est plafond de verre. Il y a une sorte de résistance de la justice face à la rapidité. Ce n'est pas possible structurellement. Même si on a plus de juges, même si on a plus de... ou alors il faudrait faire 2 audiences en même temps dans des salles séparées, quoi. Mais autrement, on est obligé de prendre le temps.
La question des moyens, c'est vrai que on a quand même un problème de moyens humains. Et c'est vrai qu'on manque de magistrats, on manque de greffiers, on manque d'adjoints, on manque d'adjoints administratifs. C'est vrai que même si vous avez un magistrat qui décide de tenir les audiences de 1h le matin jusqu'à 23h le soir, la question c'est de savoir qui est-ce qu'il va y avoir derrière pour faire les jugements, sachant que c'est le greffier qui doit certifier le jugement, pour les notifier, pour les envoyer. Donc on a quand même un problème de moyens. Je veux bien qu'on dise que même si on mettait des moyens supplémentaires, ça n'irait pas plus vite. Mais le problème, c'est que mettre des moyens supplémentaires, ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé.
Ah.
Concrètement.
Oui, on pourrait faire une expérimentation dans quelques départements.
Alors que là, voilà, je pense que il y aura beaucoup de départements candidats à l'expérimentation, plus de moyens, plus de personnes, parce que actuellement un certain nombre de réformes ont été faites où on a enlevé des compétences à certaines juridictions pour en mettre à d'autres et à moyens constants.
Oui, la cour criminelle, c'est nouveau, mais c'est les mêmes.
Ah ben, c'est les mêmes. Par exemple, pour vous dire, donc c'est vrai que très concrètement, dans le Cher, on a la cour d'assises qui siégeait 15 jours par trimestre. Donc on a 4 sessions de cour d'assises dans le Cher. On a rajouté la cour criminelle qui va siéger entre 1 et 2 semaines tous les 2 mois. Par exemple, le nombre de greffiers n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'alors même qu'on a des audiences en plus, puisqu'on a non seulement les audiences de la cour d'assises qui sont maintenues, mais également les audiences de la cour criminelle, on n'a pas de greffier en plus pour la cour criminelle. Donc
d'accord.
Tout cela se fait à moyen constant.
On règle plus d'affaires, mais la suite
C'est le problème de que ça ne suive pas vraiment. On avait, à l'époque, quand la chambre de sécurité sociale a été supprimée à Bourges au profit d'Orléans, tous les dossiers ont été transférés à Orléans. Orléans, qui a donc réceptionné les dossiers de chambre de sécurité sociale des trois départements que sont donc l'Indre, le Cher et la Nièvre, il n'y a pas eu de greffier supplémentaire, il n'y a pas eu d'adjoint technique supplémentaire, enfin administratif, il n'y a pas non plus eu de magistrat supplémentaire. Ce qui fait que désormais, si vous avez un problème d'indemnité journalière, si un jour la chambre de sécurité sociale d'Orléans vous donne raison, ça sera sur votre problème d'indemnité journalière de 2016, où vous allez avoir la décision en 2022.
Oui, oui, oui. On parle très peu de ce tribunal-là, mais il est important pour la vie de tous les jours, en fait.
Il est très important, la sécurité sociale, c'est très important pour la vie de tous les jours, parce que c'est la question des indemnités journalières, du coup des salariés qui sont arrêtés. Ça va être la question des prises en charge des maladies professionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, pour certaines maladies, notamment les maladies hors tableau, je ne vais pas vous faire un cours, mais juste pour vous dire que quand on a le salarié, il est victime d'un accident, ou enfin, il veut faire reconnaître une maladie et qu'elle est hors tableau, il faut passer devant ce qu'on appelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Oui. Et s'il y a un problème, il faut aller en appel devant un autre comité. Actuellement, nous, on envoie les dossiers à Limoges. En appel, Limoges traite toute l'Aquitaine, c'est-à-dire que ça va quand même de la Creuse en passant par la Corrèze, mais ça va surtout jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Oui. Et actuellement, on peut avoir 2 ans et demi avant d'avoir ce comité qui donne son avis. Et pendant tout ce temps-là, son avis, sauf que c'est un avis qui doit être donné parce que c'est un avis obligatoire de donner l'avis, mais pendant ce temps-là les dossiers ils sont coincés.
Oui, mais on a souvent entendu parler d'affaires comme ça, de maladies professionnelles. Il y a eu le coup de l'amiante, il y a eu des choses comme ça, et on va voir avec la Covid s'il y a des dossiers, mais c'est vrai que c'est terriblement oublié, ces choses-là.
Oui, alors même que pour le coup, par exemple, le tribunal de sécurité sociale, il y a un magistrat qui siège avec c'est une juridiction par ce qu'on appelle par échevinage, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ne sont pas des magistrats qui siègent avec il y a un représentant des employeurs et un représentant des salariés.
Ah oui, c'est un petit côté conseil des prud'hommes.
Un petit peu pareil, voilà, que le conseil des prud'hommes. Et c'est vrai que c'est aussi eux maintenant qui vont siéger en matière, par exemple, d'allocation d'adultes handicapés. Donc c'est très très important. Comme juridiction pour la vie quotidienne des personnes.
Eh bien oui, on s'est battu, je sais pas, mais pour conserver la cour d'appel à Bourges, et on n'a pas pensé que pendant ce temps-là, on pouvait nous retirer le tribunal de sécurité sociale.
C'est le problème de maintenant dans les réformes qui sont faites, parce que il y avait la réforme Dati où les choses ont été vraiment sabrées et on a enlevé des tribunaux, et à l'époque on voulait enlever des cours d'appel, et je dirais l'opposition qui a été faite à l'époque a été très importante, et ce qu'en ont retenu les politiques de tous bords, c'est que plutôt que de dire je vais supprimer un tribunal, on le vide de sa substance, mais il existe toujours. Et donc c'est ce qui se passe actuellement. En fait, on transfère des compétences, mais on rassure les gens sur le fait que ne vous inquiétez pas, votre tribunal ne va pas fermer. Mais sauf que du coup, on va transférer des compétences et qu'on dira oui, mais vous comprenez, vaut mieux avoir un magistrat compétent mais qui soit plus loin. Et donc du coup, par exemple, pour... J'anticipe sans doute un peu sur certaines réformes, mais vous voyez, pour la responsabilité médicale, ça va être, il y aura un pôle de santé qui sera, j'en sais rien, moi, à Nantes ou ailleurs.
Ça fait penser un petit peu au tribunal administratif, hein, qui est comme ça, qui a beaucoup de recul vis-à-vis du territoire.
Oui, alors pour le coup, le tribunal administratif,
c'est un peu... Alors qu'il est très sollicité.
Alors il est très sollicité, et les juridictions administratives, elles ont été multipliées. C'est-à-dire que, alors, moi qui suis là depuis pas mal de temps, j'ai même connu l'époque où on n'avait pas de cour administrative, et après on en avait 5, et je crois que maintenant on en est au moins à 8 ou 9 dans le nombre de cours administratives d'appel. Donc il y a de plus en plus de juridictions administratives.
Pour nous, quand même, c'est Orléans.
Chez nous, c'est Orléans.
Et puis l'appel, c'est Nantes.
Alors l'appel, ça n'est plus Nantes, c'est Versailles désormais.
C'est Versailles,
ouais. Depuis le 1er janvier, c'est Versailles, parce que justement, il y a eu des nouvelles cours de créer, et que donc du coup, on dépend plus de Nantes, on dépend de Versailles. Mais c'est vrai que les juridictions administratives sont très, très sollicitées parce qu'il y a le contentieux de tout ce qui est lié au droit des étrangers. Et donc, ce qui est très, très important et ce qui, avec des délais, pour le coup, obligatoire. Et puis, il y a le contentieux de tout ce qui est fonction publique, les autorisations d'urbanisme, le droit fiscal. Donc, c'est un contentieux très, très important.
Et qui risque d'augmenter, parce que tout le monde fait appel à la justice maintenant pour régler ses comptes avec l'administration, avec les élus locaux, avec c'est compliqué, hein.
Il y a une grosse judiciarisation, de la vie courante, avec les gens qui veulent toujours avoir l'opinion du juge, alors que c'est parfois difficile parce que le juge peut pas donner son opinion sur tout. Et puis surtout, tout n'est pas judiciarisable, je vais dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que les gens ont toujours tendance à vouloir porter plainte. On peut porter plainte que pour une infraction pénale. Les infractions pénales, elles figurent dans le code pénal, où il y a une liste limitative. Et on peut pas. Après, c'est toujours la différence entre ce que peut être la. Il y a la faute pénale, il y a la faute civile, et parfois il y a juste la faute morale. Et la faute morale, là, pour le coup, la justice n'y peut rien.
Bon, alors donc, il y a le tribunal social, il y a le tribunal administratif, mais donc il y a la cour criminelle qui va bien, qui va certainement s'installer durablement.
Oui, je pense que ça va s'installer durablement. Alors, c'est vrai que ça fait une césure, du coup, parce que la cour criminelle, elle traite, en fait, des crimes qui sont punis entre 15 et 20 ans, donc de réclusion. Ce qui concerne concrètement les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Je pense, par exemple, le cas typique, c'est la bagarre de boîte de nuit. Elle concerne également...
Il y a dû y avoir un petit peu moins d'affaires en ce moment-là.
Hein, a priori, oui. C'est sûr que là, du coup, ça va se tarir. Ça concerne également, pour le coup, les viols, où là, je pense qu'il y aura un petit peu plus d'affaires, parce que là, voilà. Malheureusement, on est quand même, notamment sur le département du Cher... en ce qui concerne les viols, à 80%, on est en intrafamilial. Hein, donc, pour le coup, le confinement n'aura sans doute pas arrangé les choses. Donc, les viols qui sont donc punis... donc, un viol, c'est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Et si c'est aggravé par au moins une circonstance, telle que la minorité de la victime, telle que le fait que la victime soit un ascendant ou une personne ayant autorité, on passe à 20 ans. Et la cour criminelle, elle connaît également de tout ce qui est les vols avec armes, c'est-à-dire les braquages. Donc du coup, c'est par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça fait quand même un gros volant d'affaires, par exemple pour notre département. Pour notre département, c'est une grande partie des dossiers qui peuvent être vus par la cour criminelle.
D'accord. Alors la cour d'assises, il lui reste plus que le meurtre alors ?
Il reste le meurtre, il reste l'assassinat, il reste aussi la récidive, parce que les personnes qui sont en récidive ne peuvent pas passer devant la cour criminelle.
Ah oui.
Il reste aussi dans l'immédiat les mineurs, parce que la cour criminelle ne juge que les majeurs, alors que la cour d'assises peut juger les mineurs à partir de 16 ans. Et il lui reste tout ce qui est appel, puisque dans l'immédiat, la façon dont cela est prévu, c'est que la cour criminelle ne juge qu'en premier ressort. C'est-à-dire que s'il y a un appel, ça sera nécessairement devant une cour d'assises.
D'accord. Bah, c'est la cour d'appel d'assises, la cour d'assises d'appel.
La cour d'assises d'appel, oui.
Voilà, non, c'est dans ce sens-là. Très bien. Bon, ben, on va voir, mais c'est une expérience qui a relativement bien fonctionné. Alors, qui pose le problème de la fameuse justice rendue au nom du peuple français, et qui, le peuple français qui a été un peu écarté de la justice dans certaines choses très importantes socialement quand même, comme le viol par exemple. Je sais pas, ça vous inspire quoi ?
Le principe, c'est que la justice est toujours rendue au nom du peuple français.
Mais pas par lui.
Mais pas par lui. Rarement par lui. Après, c'était la question. C'est vrai qu'il y avait eu des expérimentations, y compris à un moment sous Sarkozy, si ma mémoire est bonne, où on avait fait participer, pour le coup, il y avait des jurés dans les tribunaux correctionnels. Oui. Ça a été, on va dire, une expérimentation qui n'a pas duré très très longtemps et qui n'a pas été très concluante. Le but politique est toujours de dire on va faire participer les gens parce que comme ça ils verront et la justice sera plus sévère. on se rend compte quand même que la justice, avec des citoyens ou avec que des magistrats, elle est ni plus ni moins sévère, et que donc du coup, quand le peuple français intervient, il n'est pas nécessairement plus sévère que lorsqu'il n'intervient pas.
Alors, là, c'est le problème de la différence entre la foule et des individus. Les jurés populaires, ce sont des individus avec leur âme et conscience, comme on dit, et c'est pas la même chose que la vindicte populaire. Et souvent, dans les médias, on dit « Oh ben mince, alors, la justice est défaillante, il a été acquitté en cour d'assises. » Ben oui, mais en cour d'assises, c'est le peuple.
C'est le peuple, et puis surtout en cour d'assises, c'est toujours très très différent d'avoir l'idée de ce qu'il faudrait faire devant sa télévision ou son ordinateur, en n'ayant pas accès au dossier, parce que quand même souvent les décisions, y compris celles qu'on avait critiquées en disant c'était un scandale, ça n'aurait pas dû, y compris les décisions concernant Madame Sauvage, elle a été condamnée par deux compositions d'assises avec des jurés. Donc quand on dit on va refaire le match parce que du coup on se rend compte que moi je peux juste vous parler de la justice que je connais, de ce qui est juridictionnel, c'est-à-dire que je connais la cour d'assises, je connais la cour d'assises d'appel, éventuellement je connais la cour de cassation, mais après on se rend compte qu'il y a une autre possibilité de recours qui est devant la télé, qui est devant l'opinion publique, et qui actuellement a tendance à être beaucoup utilisée, et elle est utilisée au détriment de la justice normale par rapport à ça, parce qu'on ne va pas faire des sondages qui d'ailleurs, je le rappelle, sont interdits pour savoir si un tel est coupable ou ce qu'il faudrait mettre comme peine. Les décisions, elles sont rendues en fonction des dossiers. Il est bien évidemment que ce qui peut être dit à la télé ou sur les réseaux sociaux, ça va être dit par des protagonistes plus ou moins proches du dossier qui vont donner que les éléments qui les arrangent.
Oui, évidemment. Mais ça, c'est une des lois de la zététique, comme on dit, toujours savoir d'où vient l'information. Et alors, on n'a pas le droit de faire un sondage, on n'a pas le droit d'intervenir médiatiquement pendant que la justice se fait. Mais une fois qu'elle est rendue, c'est pas possible ?
Le moyen de critiquer une décision, c'est on a des moyens de recours. On a l'appel est un moyen de critiquer une décision, mais on n'est pas censé indiquer à la télé ou ailleurs nul, et de toute façon le juge n'a rien compris.
L'appel n'est qu'une prérogative du condamné, de toute façon. L'opinion publique
peut pas faire appel. Non, heureusement.
Tout ce qui lui reste, c'est de faire des commentaires.
Mais c'est vrai que du coup, c'est y compris quand on a parfois des commentaires de politique, donc y compris parfois de gens qui représentent l'exécutif et qui peuvent faire des commentaires sur des décisions. Alors, soit sur des décisions à venir, c'est toujours embêtant d'avoir quelqu'un qui représente l'exécutif et qui dit il sera jugé sévèrement, on n'en sait rien, et puis lui, de toute façon, il n'a pas son mot à dire, ou de dire il n'a pas été jugé assez sévèrement, ou il a été jugé trop sévèrement, et je lui apporte mon soutien. Quand on fait partie de l'exécutif, pour le coup, on doit quand même respecter ce qu'est la séparation des pouvoirs en France, ce qui est un des fondements de notre démocratie depuis plus de 200 ans, et qui est indispensable.
Mais le respect et la critique, ce sont des choses différentes. On prend acte d'une décision de justice, on la respecte, on l'exécute, même si on est le pouvoir exécutif, mais on peut très bien avoir un avis critique sur la façon dont s'est déroulé soit le procès, soit bien souvent l'enquête de police qui précède le procès, qui constitue le dossier, parce que c'est souvent là qu'il y a des problèmes.
À condition d'y avoir accès. C'est toujours mieux de parler exclusivement de ce qu'on connaît.
Oui. Eh bien, il ne va pas y avoir beaucoup de chaînes de télé et de,
oui, c'est
et
sûr.
De radio.
C'est sûr. Ça nous ferait. Ça va faire du temps d'antenne disponible.
Bon, eh bien, pour alimenter la rumeur publique, voici que le gouvernement propose des états généraux. Alors, ce n'est pas des états généraux de la justice, c'est des états généraux du droit.
Des états généraux du droit, oui. C'est une proposition qui a été faite par le garde des Sceaux très dernièrement.
Un ancien confrère,
oui.
Confrère, oui.
Un ancien confrère. dernièrement. C'est vrai que ça fait suite à, on va dire, à un florilège de propositions là, que nous avons actuellement, où nous sommes manifestement entrés en période préélectorale et où du coup chaque candidat, alors je vais dire putatif hein, ou présumé, y va de sa petite phrase ou de sa petite proposition sur la justice, et que je crois qu'il est temps de mettre en place effectivement quelque chose et puis de siffler la fin de la récré pour le florilège de propositions un peu déconnectées de la réalité judiciaire. Les états généraux du droit, il y a eu un communiqué qui a été fait je crois hier par à la fois la conférence donc des présidents de tribunaux, la conférence des procureurs généraux et des premiers présidents, pour indiquer qu'ils allaient être très vigilants par rapport à ces états généraux du droit, comme vont l'être d'ailleurs les avocats avec leurs instances représentatives sur la question des moyens, parce qu'on en revient là, sur la question des moyens qui sont donnés à la justice. Ce que le Covid et la crise du Covid a démontré, qu'on n'était pas prêt. Il y a eu quand même un rapport pour dire que la justice, les tribunaux n'avaient pas fonctionné normalement parce qu'ils n'étaient pas prêts. On n'était pas prêts pour tout ce qui était dématérialisation. Les juridictions ne sont pas équipées de portables. Les accès numériques ne sont pas faits. Et donc, on ne peut pas, là où tout le monde a télétravaillé en un rien de temps, la justice n'en a pas été capable. Donc, on n'était pas prêts parce qu'on n'a pas les moyens.
Oui, mais quand il y a eu une crise économique, c'était en 2008, on a fait des études sur la résilience des banques, et il faudrait faire ça aussi sur la résilience de la justice. Mais la justice et le droit, c'est pas pareil. La justice, c'est un fonctionnement d'une institution, c'est une institution qui fait appliquer le droit. Mais le droit, normalement, c'est les chambres législatives qui font le droit.
Oui, c'est le...
Alors, je comprends pas bien les états généraux de ce qui est fait déjà par des chambres élues.
Non, a priori, les états généraux, c'est plus sur la question du fonctionnement.
Alors donc, ce serait plutôt la justice.
Voilà, c'est... Oui.
Oui, je trouve bizarre ce terme.
Par rapport à ça. C'est le fonctionnement. C'est effectivement, quand vous entendez un parlementaire qui se plaint de la façon dont a été jugé ceci ou cela, les magistrats, ils appliquent le droit. Et nous, on fait en fonction du droit.
Ben oui.
Donc après, il faut le faire bouger. Et la seule façon de le faire bouger, c'est soit par l'activité parlementaire, soit éventuellement par décret.
Pourtant, l'activité parlementaire dans le domaine du droit, il ne faut pas s'en plaindre. Non aux cadences infernales.
Elle est pléthorique, ça c'est certain qu'elle est pléthorique et qu'on est sur le... Alors il y avait le millefeuille législatif et nous maintenant il y a le millefeuille judiciaire. Voilà, on a plus tendance à nous empiler des lois, y compris avec celles qui réinventent l'eau chaude, alors qu'on avait déjà un certain nombre de choses qui étaient prévues dans des précédentes, dans des précédentes lois. C'est-à-dire que là on est sur les... Y compris avec tout ce qui peut... impacter l'opinion publique, on est sur des lois qui sont juste de par rapport à chaque fait divers où on a une nouvelle loi qui nous est annoncée.
Elles ont des noms maintenant, hein, elles ont des noms de victimes, d'hommes politiques. C'est personnalisé, c'est un peu comme le vin, il y a des étiquettes, des millésimes.
Voilà, il y a des millésimes, mais c'est vrai qu'il y en a, énormément et qu'on c'est difficile de pouvoir s'y retrouver désormais.
Alors, je suis toujours surpris parce que j'entends toujours vos collègues et vous-même dire que les lois sont mal faites. Et dans les chambres de députés, il y a énormément d'avocats, de juges. Comment ça se fait ? Il y a beaucoup de professionnels dedans, quand même.
Il y a beaucoup de professionnels du droit, pour le coup, des professionnels du droit qui sont effectivement parlementaires. Et donc, on est parfois un peu surpris du caractère très théorique de certaines propositions et du fait que ça ne soit pas nécessairement adapté à la pratique quotidienne, oui.
Et puis, la plupart des lois, c'est un projet au départ, donc ça émane du ministère de la justice. On pourrait s'attendre à ce que là, il y ait une pléthore de professionnels.
Il y a les projets de loi, il y a les propositions, voilà. Effectivement. Donc soit ça émane des groupes parlementaires, soit ça émane du gouvernement.
Mais le gouvernement doit pouvoir s'entourer de compétences certaines.
pense qu'il y a les compétences, voilà, il y a les compétences théoriques et puis il y a la notion de pratique aussi. Oui. Mais ça, pour le coup, on retrouve la même chose, que ce soit pour le droit ou pour ce soit pour la vie quotidienne, où je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement adaptées, y compris à des petites juridictions, par exemple.
Hein. Oui. Je suis surpris de voir que des décrets, par exemple, sont quasiment éconduits par le Conseil d'État, qui émane de la même source que le gouvernement la plupart du temps.
Alors, ça, non. Il y a deux choses. Le Conseil d'État, il a deux casquettes.
Ah.
Il a la casquette, effectivement, qui est une
casquette... Oui, de cour de cassation pour la justice.
Alors oui, voilà. par rapport à ça, c'est une juridiction. Donc, ils peuvent effectivement... annuler des décisions réglementaires. Et il y a aussi une casquette d'avis, hein, donc qui donne des avis au gouvernement, sachant qu'on prévoit quand même que la section du Conseil d'État qui a donné son avis au gouvernement sur un texte ne va pas être la section du Conseil d'État qui sera amenée à juger ce texte. Et après, il y a la question de savoir aussi si l'avis du Conseil d'État a été suivi ou pas par le gouvernement, parce qu'ils peuvent indiquer sur ce qui est faisable ou ce qui n'est pas faisable.
Oui. Oui, c'est vrai, c'est une situation très ambiguë, un petit peu comme la police des polices, qui est à la fois une justice et une police. C'est un petit peu ambigu tout ça, d'accord. Bon, un petit retour en arrière avec un présumé tyran qui est Napoléon Bonaparte, mais qui nous a légué quand même quelque chose. Entre quelques noms de bataille, c'est bien, moi, j'ai connu Napoléon par la guerre d'Austerlitz. Voilà. Mais c'est ce qui nous a légué de mieux, c'était peut-être le code civil, qu'on appelle d'ailleurs le code Napoléon. Alors, c'est 1804,
ouais,
je crois. Voilà. C'était juste avant de se faire couronner bêtement. Et c'est pas lui qui l'a rédigé, évidemment, hein. Mais c'est un texte qui a été rédigé, pour le coup, par des professionnels du droit.
Oui, notamment par les jurisconsultes, oui.
Ouais.
Mais c'était très important. Il y a un héritage législatif qui est et de codification. C'était surtout la notion de codification.
Le code, ouais.
Voilà, le code et le fait de rassembler des éléments qui étaient un peu épars, du coup de les codifier. Donc cette volonté de codifier, c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Alors au niveau, je vais dire juridique, hein, parce que je vais pas me prononcer sur le reste, mais sur les.
Bon, il a été toiletté pas mal depuis.
Il a fallu, c'est-à-dire qu'on est quand même obligé de s'adapter. On dit toujours que je crois qu'à Paris, il y a un obscur décret qui dit que les femmes n'ont pas le droit de se promener en pantalon, qui a jamais été abrogé. Bon, le code, il est quand même assez souvent modifié, parfois même trop souvent, on va pour les professionnels qui s'en servent au quotidien, où il faut toujours du coup vérifier. C'est vrai que sur les, on a les codes papier qu'on utilise encore, et maintenant quand on a les versions numériques, vous avez la possibilité de voir toutes les anciennes versions, et donc vous pouvez voir affiché sur 10 ans, il peut y avoir eu 15 versions d'un article, donc ce qui est toujours compliqué quand on doit vérifier la date à laquelle on a le dossier pour voir quelle est la version de l'article qui s'appliquait à ce moment-là.
Oui, effectivement, oui. Et oui, la loi n'est jamais rétroactive.
Et... Sauf si elle est plus favorable.
Ah oui, dans ce cas-là, oui, d'accord. Bah, il y a eu quand même des cas de rétroactivité de la loi pour des raisons de sécurité. Alors moi, j'ai toujours été un pourfendeur du permis à points. Et le permis à points s'est appliqué même au permis beaucoup plus ancien.
Même aux gens qui... Voilà, tout à fait. C'était parfois un peu difficile à comprendre, y compris il y a beaucoup de personnes qui pensaient que le permis à points ne s'appliquait pas à eux parce qu'ils avaient eu leur permis à l'époque où il n'y avait pas le permis à points. Mais non, on a dit on a un permis à points en France et quelle que soit la date à laquelle on l'a passé, tout le monde a un permis à points.
Eh oui, tout vient à point qu'il sait attendre.
Ouais.
Eh bien, je vous remercie d'être venu à notre studio.
Merci
vous
à vous.
Vous n'étiez pas seul. Il y avait des observatrices que nos auditeurs n'auront pas entendues qui sont en stage chez vous. Voilà. Ça passe beaucoup par le stage.
On a mademoiselle Camille Petit, mademoiselle Jeanne de Almeida qui sont avec nous en stage pour la semaine. C'est vrai qu'en ce qui concerne les étudiants, alors en droit particulièrement, le stage c'est important pour voir un peu la pratique, y compris les pratiques dans un cabinet d'avocat, comment ça se passe au quotidien.
Oui, et puis ça peut nourrir une motivation peut-être. Elles font oui de la tête. Voilà. Chers auditeurs, cette émission est en version sous-titrée.
Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Oh,